Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant le complot meurtrier contre Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 11, et là, étant donné que c'est beaucoup trop long, nous le ferons en deux parties, un meurtre à Golgotha, en deux parties. Aujourd'hui, la première partie, il est dit dans Saint Jean, au chapitre 19, versets 17 et 18, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. La flagellation que Pilate a ordonnée ne constitue que le premier d'une longue série de sévices corporels et émotionnels qui se termineront par la mort de Jésus. Elle s'accompagne de moqueries cruelles que les soldats romains semblent lui servir, et ceci par simple plaisir. Et voici comment Saint Matthieu décrit la scène. Matthieu chapitre 27, versets 26 à 30. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent donc Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, ô roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, et ils prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Saint Matthieu, j'ai dit, chapitre 27, versets 26 à 30. Voyez-vous, en dépit du fait que ces soldats n'ont, au fond, aucune raison de mépriser Jésus, cela les amuse tout simplement beaucoup. Ayant été les témoins de tant d'exécutions déjà, ces hommes n'ont évidemment pas froid aux yeux et demeurent désormais totalement indifférents aux souffrances qui accompagnent ce type de torture terrible. Pour eux, voyez-vous, Jésus n'est qu'un autre de ces fanatiques religieux qu'ils sont libres de persécuter aussi cruellement qu'ils le souhaitent. Le monde entier semble être monté contre Jésus, les Juifs comme les non-Juifs, indifféremment. Tous participent maintenant délibérément et joyeusement à son assassinat. Ils sont tous déterminés à le voir mourir de la manière la plus atroce possible. On pourrait consacrer tout un livre aux souffrances associées à la crucifixion, mais l'Écriture sainte met l'accent particulièrement sur certains aspects des tortures auxquelles Jésus-Christ est soumis. Donc, les soldats romains n'ont pas la moindre idée de l'identité de celui qu'ils tourmentent. À leur avis, ils ne font que crucifier un autre criminel sous les ordres de Pilate, leur commandant en chef. Pilate a donc ordonné qu'on fasse fouetter et crucifier Jésus, certes, mais ils se moquent par pure méchanceté de leur part. En ramenant Jésus au prétoire, ils le tournent délibérément en dérision dans le seul but d'amuser la galerie. Le tumulte de la foule railleuse, moqueuse, attire toute la garnison. Notons qu'une cohorte romaine se compose tout de même de 600 soldats en garnison à la forteresse Antonia qui surplombe au nord la colline du Temple. Il s'agit donc d'une unité élitaire mandatée au service du gouverneur et chargée de maintenir la paix si fragile. Si fragile, on peut dire, dans cette région, les plus explosives de tout l'Empire romain. Notons également que Rome a enrôlé à l'époque des soldats provenant de toutes les régions qu'elle conquiert. Mais comme les Juifs sont exempts du service militaire, tous ces soldats sont donc des païens. Il s'agit probablement de troupes syriennes, car les Syriens parlent aussi l'araméen, ce qui leur est essentiel à Jérusalem. Or, certains de ces soldats comptent indubitablement au nombre de ceux qui ont appréhendé Jésus la veille à Gethsémané. Mais ils ne savent probablement toujours pas, on peut dire vraiment, ce qu'ils doivent faire. Car voyez-vous, pour eux, Jésus n'est qu'un zélote religieux quelconque, parmi tant d'autres, qui trouble la paix et cause des problèmes à Rome. Ils présument sans aucun doute qu'ils méritent tout le ridicule et les tourments dont ils peuvent l'accabler. Les prisonniers que Rome condamne peuvent s'attendre à subir de tels abus, car leurs bourreaux ont pour seule restriction d'éviter de les faire mourir avant leur crucifixion. Par ailleurs, même si les soldats ne maltraitent probablement pas Jésus parce qu'ils lui en veulent personnellement, ils se montrent néanmoins méchants à l'extrême. Aussi, après tant d'exécutions, les soldats sont évidemment passés maîtres à ce jeu moqueur, mais il leur arrive rarement d'avoir un public aussi enthousiaste devant lequel faire leur petit numéro. Ils ont donc manifestement décidé de mettre tout le paquet. Comme Jésus s'est déjà fait gifler et battre à plus d'une reprise, avant même d'ailleurs d'être amené à Pilate, il a indubitablement le visage tout enflé et ensanglanté. Après avoir été flagellé, son dos n'est plus que plaie sanglante et muscles frémissants sous la tunique dont on l'a revêtu et qui ajoute aux douleurs qui lui infligent ses blessures. Rappelons-nous qu'ils lui ont retiré ses propres vêtements, ce qui laisse entendre qu'il serait entièrement nu si ce n'était de cette tunique improvisée, probablement un vieux vêtement qu'un soldat ne souhaite plus porter. Notons que Saint Matthieu prête la couleur rouge à cet habit, tandis que Saint Marc et Saint Jean le disent être pourpre, de couleur pourpre. Notez Saint Marc chapitre 15, verset 17 et Saint Jean chapitre 19, verset 2. Suggérons ainsi qu'il s'agit tout simplement d'une tunique très décolorée. C'est probablement le vêtement le plus près du pourpre, qui est le symbole de la royauté, sur lequel les soldats ont pu mettre la main. De toute évidence, ils veulent complètement et ridiculiser parce que Jésus se dit roi. Alors ils veulent évidemment le ridiculiser. Et c'est pour cela qu'ils lui fabriquent une couronne d'épines, soit en quelque sorte l'imitation cruelle de la couronne de laurier que porte César. Nul doute qu'ils prennent les épines les plus longues et les plus pointues possibles. Toutes sortes d'épines poussent du reste à Jérusalem, même encore aujourd'hui. Certaines même longues, de 4 à 5 centimètres. Tout cela, on le pose sur la tête avec beaucoup de... Je veux dire, avec aucune délicatesse, vous l'avez bien compris. Plutôt avec beaucoup de... En pesant dessus, si possible, pourquoi pas. Tandis que les soldats enfoncent, je dis bien, la couronne bien en place. Alors le roseau qu'on lui met à la main, ce roseau sert également à le ridiculiser, parce que, tout simplement, parce qu'il se dit roi. Le roseau représente donc un sceptre, mais ce n'est qu'une pâle imitation du sceptre que César tient à la main lors des festivités. Il se peut que le mutisme de Jésus les ait convaincus qu'il n'est que peut-être seulement une espèce de fou, un peu bizarre, envers qui il témoigne le plus grand mépris, en feignant le genre de vénération qu'on témoignerait à la royauté, soit en s'agenouillant à ses pieds et en s'écriant « Salut au roi des Juifs !» Et tout cela d'un ton évidemment moqueur. Ensuite, à l'instar des chefs religieux, il lui crache dessus en plus. Et l'un d'entre eux lui enlève le roseau de la main pour le frapper à plusieurs reprises sur la tête. Or, bien que le roseau serve de piètre sceptre, il est suffisamment ferme pour lui infliger de très grandes douleurs à la tête, qui est déjà meurtrie. L'apôtre Jean rapporte qu'il lui donne aussi des gifles. Saint Jean, chapitre 19, verset 3. Le giflant, probablement, en pleine main, ça fait très mal, en continuant évidemment de se moquer de lui. Ils font manifestement les pitres, tout cela pour amuser la foule de spectateurs qui les acclament probablement. Mais les soldats ignorent toujours qui est réellement Jésus. Ce roi des rois qui régnera effectivement un jour sur le monde entier. Par contre, son vrai sceptre, il n'aura rien de comparable au roseau, car il s'agit en fait d'une verge de fer, selon le psaume chapitre 2, verset 9, et Apocalypse chapitre 19, verset 15. Ainsi, selon l'Écriture sainte, ce sera un jour autour de Dieu, et oui, de se moquer des méchants. Car voici ce que dit le psaume chapitre 2, versets 4 à 6. Il est dit que celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Psaume chapitre 2, versets 4 à 6. Si tout ce monde-là savait réellement à qui ils ont affaire, ils ne le traiteraient jamais de la sorte. Mais voilà, Jésus garde le silence, comme le confirme ceci dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Lui, Jésus, qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Jésus sait donc très bien que ces choses s'inscrivent dans le plan que Dieu a lui-même arrêté pour son Fils, ce pourquoi il les supporte tout volontairement, patiemment et, en plus, imperturbablement. Ensuite, il est écrit dans Saint Matthieu chapitre 27, verset 31, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Saint Matthieu chapitre 27, verset 31. À l'époque, on passe habituellement au cou de ceux qu'on va crucifier, un écriteau sur lequel on inscrit le crime pour lequel ils sont condamnés. Cela contribue à la honte dont on cherche à les couvrir. Hébreux chapitre 12, verset 2 et chapitre 13, verset 13. On les donne donc en spectacle en leur faisant parcourir les rues dans un genre de procession publique destinée tout simplement à les humilier encore davantage et le plus possible. On les oblige donc également à porter leur propre croix jusqu'au lieu de leur exécution. Et voilà d'ailleurs la pratique à laquelle Jésus a fait allusion plus tôt dans son ministère. Il est dit dans Saint Marc chapitre 8, verset 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Saint Marc chapitre 8, verset 34. Certains prétendent qu'on oblige les crucifiés romains à ne porter que la poutre latérale connue sous le nom de padibulum, qu'on fixera au haut de la poutre verticale qui est déjà plantée solidement dans le sol. Mais l'Écriture sainte semble indiquer clairement que Jésus-Christ porte toute sa croix. Or, voyez-vous, une croix romaine suffisamment grande pour qu'on puisse y crucifier un homme adulte peut peser jusqu'à 90 kilos, 90 kilos, soit donc un fardeau extrêmement lourd à porter en n'importe quelle circonstance. Mais pour quelqu'un dans l'état épouvantable de Jésus, il serait virtuellement impossible de traîner une telle charge du prétoire jusqu'au lieu d'exécution qui est située en dehors des murs de Jérusalem. Surtout après les horribles sévices que Jésus a déjà dû subir. C'est pas rien, c'est terrible, inimaginable, c'est honteux. En fait, saint Matthieu indique que Jésus a besoin d'aide, il a besoin d'être aidé pour pouvoir porter la croix. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent là un homme de Cyrène qui est appelé Simon. Et ils l'ont forcé à porter la croix de Jésus. Chapitre 27, verset 32. Au moins quatre soldats, on peut dire un quatuor, accompagnent le condamné au lieu de l'exécution. Visiblement impatients d'accélérer le pas, les soldats accroche donc Simon au passage et il le force à porter la croix à la place de Jésus. Comment ne pas comprendre que Jésus soit très très épuisé? Rappelons-nous que la veille, la journée a été si exigeante que ses disciples n'ont même pas pu rester éveillés pendant que Jésus prier dans le jardin. Mais ce n'était que le commencement de l'extrême agonie de Jésus. Il a littéralement sué du sang, oui du sang, tant son affliction était grande. Puis il s'est fait arrêter, il s'est fait battre à plusieurs reprises. Il était privé de sommeil toute la nuit et de nouveau battu. Fustigé à la mode romaine et battu et se moquer encore. Donc après toutes ces heures de pure agonie, sans compter la perte de sang, à l'état de choc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit incapable de porter lui-même une croix de 90 kilos jusqu'au lieu du calvaire. On peut imaginer, et même quand j'étais assez solide à l'âge de 40 ans, je crois pas que j'aurais pu faire cela malgré que j'étais pas une mauviette. Même avec Simon pour porter sa croix, Jésus est manifestement beaucoup trop faible, même pour marcher sans qu'on le soutienne. Car il est écrit dans saint Marc chapitre 15 verset 22 « Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha. » Or l'expression grecque ici rendue par « ils conduisirent » cela laisse entendre qu'on l'a presque porté jusqu'à l'endroit en question. Car il marche très probablement, plus que probablement, avec beaucoup, beaucoup de difficultés et ne peut même y arriver sans que les soldats le soutiennent constamment. Il pourrait s'évanouir à tout moment. Notons aussi que Simon de Cyrène n'est pas un simple spectateur qui souhaite se moquer de Jésus comme le reste de la foule, mais c'est un passant qui lui revient des champs, selon saint Marc chapitre 15, verset 21. Comme Jésus sort de la ville, voilà que Simon y entre apparemment, et il se trouve providentiellement au bon endroit, au bon moment, pour venir en aide à Jésus. Précisons que Cyrène est une ville africaine située sur le littoral méditerranéen, où se trouve actuellement la Libye. À l'époque, beaucoup de Juifs y vivaient, et Simon est probablement un pèlerin juif qui a parcouru un long chemin depuis Cyrène jusqu'à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. Saint Marc identifie donc Simon comme étant le père d'Alexandre et de Rufus, verset 21. Or, Marc écrira probablement son évangile à Rome vers les années 50 après Jésus-Christ, ce qui signifie que Alexandre et Rufus comptent alors sans doute au nombre des chrétiens, et oui, des chrétiens que l'Église romaine connaît déjà. Notons que l'apôtre Paul saluera du reste Rufus, qui est l'élu du Seigneur et sa mère. Selon Romains chapitre 16, verset 13. Alors, supposons, s'il s'agit du même Rufus, eh bien sa mère est donc tout simplement la femme de Simon. Par ailleurs, le fait que Simon soit nommé dans les trois évangiles, dans les trois évangiles synoptiques, cela laisse entendre que les auteurs des évangiles connaîtront donc son histoire, et ce qui signifie indubitablement qu'il en sera venu à croire vraiment en Jésus-Christ. Bien qu'il ne puisse se réjouir, et on le comprend, d'être ainsi recruté pour porter la croix assez lourde d'un criminel condamné, eh bien cet événement lui ouvrira les portes, et oui, les portes sur la vie éternelle. Alléluia. Christ donne du reste ici, sur le chemin du calvaire, son dernier message en public. Notez Saint Luc chapitre 23, verset 27 à 31. Là, il est dit, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se retourna vers elle et il dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous !» et aux collines, « Couvrez-nous !» Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Saint Luc chapitre 23, versets 27 à 31. Il consacre donc une partie de son message à la citation de Osée chapitre 10, verset 8, où il est en effet dit, « Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. » Il prévient ainsi d'un terrible désastre qui est à venir. Comme cette culture tient la maternité comme la plus grande bénédiction que Dieu puisse accorder à une femme, il n'y a donc que la pire des plaies ou des catastrophes qui puisse faire dire à quelqu'un « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Le bois vert représente donc une période d'abondance et de bénédiction. Et le bois sec représente des temps difficiles. Jésus est donc en train de dire que si une telle tragédie a lieu durant une bonne période, qu'arrivera-t-il à la nation dans les temps mauvais? Or, si les Romains crucifient quelqu'un dont ils ont reconnu l'innocence totale, que feront-ils à la nation d'Israël lorsque elle se rebellera? Jésus-Christ fait ici allusion à des événements qui se produiront moins d'une génération plus tard, c'est-à-dire aux environs des années 70 après Jésus-Christ, lorsque l'armée romaine assiégera tout Jérusalem et détruira entièrement le temple et en plus tuera des milliers et des milliers de juifs, dont un grand nombre par crucifixion. Notons que Jésus-Christ a déjà prédit cet holocauste à venir. Notez Saint-Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Le fait qu'il sache que cette catastrophe se prépare et que certaines de ces personnes ainsi que leurs enfants vont vraiment en souffrir, tout cela préoccupe beaucoup Jésus, même en chemin vers la croix. Pour aujourd'hui, nous terminerons cette courte étude, première étape ou première partie, pour continuer, demain Dieu voulant, la deuxième partie, un meurtre à Golgotha. Donc, chers amis, j'aimerais maintenant vous transmettre quelque chose de merveilleux pour votre édification personnelle, mais aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez attentivement. Qu'il est consolant et doux de voir des chrétiens zélés, pieux, fervents, fidèles et observateurs des enseignements bibliques. Qu'il est triste, au contraire, et pénible d'en voir qu'ils ne vivent pas dans l'ordre et qu'ils ne remplissent pas les engagements auxquels ils ont été pourtant appelés. Qu'on se nuit à soi-même en négligeant les devoirs de sa vocation et en détournant son cœur à des choses dont on n'est point chargé. Souvenez-vous de ce que vous avez promis et que Jésus-Christ crucifié vous soit toujours présent. Vous avez bien sujet de rougir en considérant la vie de Jésus-Christ, d'avoir jusqu'ici fait si peu d'efforts pour y conformer la vôtre, quoique vous soyez depuis si longtemps entré dans la voie de Dieu. Un chrétien qui s'exerce à méditer sérieusement et avec piété la vie très sainte et la passion du Sauveur, il trouvera en abondance tout ce qui lui est utile et nécessaire, et il n'a pas besoin de chercher hors de Jésus-Christ quelque chose de meilleur. Ah oui, si Jésus-Christ crucifié entrait dans notre cœur, âme et esprit, nous serions bientôt suffisamment instruits. Un chrétien fervent conçoit bien ce qu'on lui commande et s'y soumet sans peine. Or, un chrétien tiède et qui est relâché souffre tribulation sur tribulation et ne trouve de tous côtés que la gêne parce qu'il est privé des consolations intérieures et qu'il lui est interdit d'en chercher au dehors. Comment font tellement d'autres chrétiens? Comment font-ils? Eux qui observent une étroite discipline. Ils sont nourris très pauvrement et même grossièrement vêtus. Ils travaillent beaucoup. Ils veillent longtemps. Ils se lèvent tôt le matin et observent en tout une exacte discipline. Quelqu'un m'a dit un jour: il te manque plus que la robe de bure. Mais, mes chers amis, la robe de bure ne sauve personne. Quand un homme en est venu à ne chercher sa consolation dans aucune créature, c'est alors qu'il commence à goûter Dieu parfaitement et qu'il est, quoi qu'il arrive, toujours satisfait. Alors il ne se réjouit d'aucune prospérité et aucun revers ne le contriste, mais il s'abandonne tout entier avec une pleine confiance à Dieu qui lui est tout en toutes choses, pour qui rien ne périt, rien ne meurt, pour qui au contraire tout vit et à qui tout obéit sans délai. Souvenez-vous toujours que votre fin approche, et comment, et que le temps perdu ne revient point jamais. Les vertus ne s'acquièrent qu'après beaucoup de soins et des efforts constants. Dès que vous commencerez à tomber dans la tiédeur, eh bien, vous tomberez dans le trouble. Mais si vous persévérez dans la ferveur, vous trouverez une grande paix et vous sentirez votre travail plus léger à cause de la grâce de Dieu et de l'amour de la vertu. L'homme fervent, la femme fervente et zélée, est prêt à tout. Il ou elle est plus pénible de résister aux vices et aux passions que de supporter les fatigues du corps. Oui, celui qui n'évite pas les petites fautes tombera tôt ou tard, peu à peu, dans les grandes fautes. Vous vous réjouirez toujours le soir, quand vous aurez employé le jour avec fruit pour sauver des âmes. Veillez donc sur vous, et quoi qu'il en soit des autres, ne vous négligez pas vous-même. Vous ne ferez de progrès que autant que vous, vous ferez violence. Amen. Amen. Et chers amis, maintenant, prions. Nous allons avoir un tout petit moment de prière maintenant. Le Christ, il est tout pour nous. Veux-tu guérir ta blessure? Eh bien, Jésus, il est lui le médecin. Es-tu écrasé sous le poids de tes iniquités? Alors Jésus est celui qui justifie. As-tu besoin de secours? Jésus est la force. Crains-tu la mort? Jésus, il est la vie. Aspires-tu aux choses d'en haut? Jésus en est le chemin. Veux-tu fuir les ténèbres? Jésus est la lumière. As-tu une faim en toi? Jésus est la nourriture spirituelle. Allons donc à lui comme le malade au médecin. C'est un médecin qui fait vivre et il guérira nos infirmités. Allons donc à lui comme celui qui est souillé et qui va à la fontaine. Jésus, c'est lui la fontaine des miséricordes, et il lavera toutes nos impuretés. Allons à lui, comme l'aveugle à la lumière. C'est lui, Jésus, la lumière des clartés éternelles. Elle éclairera notre cécité. Allons à lui, comme le pauvre et l'indigent à leur bienfaiteur. C'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il enrichira notre pauvreté et il vêtira notre nudité. Gloire et louange à Dieu le Père, à son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime. Oh oui, il vous aime vraiment de tout son cœur. Et il est donc de mon devoir, oui, de mon devoir de vous aimer également. Et je vous dis maintenant, en vous enlaçant et en vous embrassant avec tout mon amour. Oh, mes chers amis, mes frères et sœurs, oui, je vous aime. Soyez donc bénis. À demain matin pour la deuxième partie. À bientôt. Et j'aimerais vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé, 1954. Oh, j'étais un tout jeune homme quand j'avais enregistré cela. Bien entendu, on n'avait pas les appareils d'aujourd'hui, et en plus, le son, la qualité, si vous voulez, on n'entend plus parfaitement, peut-être audiblement les voix, mais l'Esprit Saint est là et vous transmettra, même par ces chants d'un très lointain passé, quelque chose de merveilleux pour votre cœur, âme et esprit, car je vous aime, oui. Donc, essayons, si ça fonctionne, essayons.
You left this place. I just keep trusting my Lord, and he will pass on. Though the storm clouds darken the sky on the heavenly trail, I just keep trusting my Lord.